Bonjour à tous. Quelles sont les prévisions pour le risque incendie cet été sur l'Aude? Pour en savoir plus, nous retrouvons Jean-Paul Beylac, qui est responsable feu de forêt au S10-11. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Jean-Paul Beylac, le premier grand feu de l'Aude a déjà eu lieu, si je puis dire, le mardi 2 juillet à Sigean, avec 30 hectares partis en fumée. Comment est-ce que vous envisagez cet été ?
Alors, il faut savoir qu'on a démarré l'été dans un contexte de sécheresse très marqué sur l'est du département. Donc depuis, on a eu quelques petites pluies qui ont permis d'écrêter un petit peu le risque, mais on est toujours dans une situation très précaire. Et ça a été le cas donc sur le feu de Sigean. Il a suffi d'une période très ventée pour que on ait des conditions propices à la propagation et un feu très difficile à contrôler. Donc pour l'avenir, on nous annonce des températures très élevées pour la deuxième partie de, ou en tout cas pour l'été à partir de au-delà du 14 juillet, avec des températures qui vont dépasser les 35 degrés. Donc il est très probable que le dessèchement va s'accentuer et que les conditions vont se durcir en termes d'incendie.
Alors on reparlera tout à l'heure des gestes indispensables. Moi j'aimerais savoir, Jean-Paul Beylac, en 2023, combien de feux sont déclarés sur le département de l'Aude? Combien d'hectares sont partis en fumée?
Donc l'an dernier, on a eu 189 feux de forêt qui ont parcouru 289 hectares de feux de végétation, d'espace naturel combustible. Mais il faut ajouter à ces feux de forêt, proprement dit, tous les feux de végétation qui ont pu concerner des espaces agricoles, des espaces périurbains. Donc il faut rajouter pratiquement 1000 feux de plus à l'activité donc qui est celle des feux de forêt proprement dit.
Donc quelles sont les précautions à prendre en fait pour prévenir les feux de forêt et pour limiter les feux de végétation aujourd'hui?
Alors, première des choses, c'est d'éviter d'être soi-même à l'origine d'un départ de feu. Éviter d'apporter du feu et même plus qu'éviter, hein. Il est proscrit d'apporter du feu dans les massifs sous quelque forme que ce soit, que ce soit par le biais de mégots qu'on jetterait. Il est interdit de fumer dans les massifs forestiers, interdit d'y faire des barbecues, interdit d'y apporter par le biais de travaux par exemple des flammes nues, faire de la soudure, même lorsqu'on est chez soi, hein, lorsqu'on est dans le proche environnement autour de son domicile, à moins de 200 mètres d'espace naturel et combustible, tout apport de feu est interdit. Et il y a un nombre de départs de feu d'origine accidentelle relativement important qui partent dans le proche environnement du domicile des personnes.
C'est la première cause en fait de départ de feu.
Alors, les causes sont assez équilibrées. C'est pas la première en période estivale, c'est pas la première cause de départ de feu, mais c'est une cause très importante. Les départs de feu d'origine accidentelle représentent encore, que ce soit des départs de feu liés à des installations ou à des imprudences des particuliers, entre la moitié et les deux tiers du nombre de départs de feu en période estivale.
D'accord.
Et ça, ce sont des causes sur lesquelles, par de bons comportements, on pourrait agir très efficacement, donc on pourrait agir et éliminer une grosse proportion de ces causes-là.
Donc finalement, il y a des gestes indispensables pour limiter ces feux de végétation et ces feux de forêt, hein ?
Oui, tout à fait. Donc réfléchir à chaque fois qu'on a une activité à l'extérieur, qu'elle ne soit pas potentiellement à l'origine d'un départ de feu. C'est pas parce qu'on fait, par exemple, on fait pas un barbecue au sol avec des végétaux que l'usage d'un barbecue, d'un camping-gaz, par exemple, est autorisé et présente moins de risques. Il suffit que le camping-gaz se renverse pour qu'il soit à l'origine d'un départ de feu. Lorsqu'on utilise, par exemple, une meuleuse pour faire des travaux, c'est pas parce que la meuleuse ne présente pas de flamme nue que ça ne représente pas de risque, puisque systématiquement, on va avoir des projections d'étincelles, donc de particules incandescentes, qui, elles, sont considérées comme des apports de feu et génératrices de sources d'incendie.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin d'un départ de feu, Jean-Paul Beylac?
Alors, la priorité, hein, c'est donc d'appeler les secours par le biais du 18 ou du 112, immédiatement, de donner les informations les plus précises possibles sur la localisation du départ de feu et le proche environnement. Donc ça, c'est la première des choses pour permettre donc aux 10 d'envoyer très rapidement les secours au bon endroit et avec un volume correspondant à la gravité du départ de feu. Et ensuite, s'éloigner pour ne pas s'exposer au départ de feu, s'éloigner le plus rapidement possible, ne pas s'exposer et ne pas gêner les secours. Bon, on observe encore trop souvent des gens qui viennent observer ce qui est en train de se passer, des badauds, qui en fait vont d'une part s'exposer eux-mêmes, et d'autre part gêner l'évolution des secours, gêner l'accès des secours sur les incendies quand ce n'est pas par exemple sur l'autoroute, provoquer des ralentissements, voire des accidents par un comportement inapproprié, donc des gens qui filment le départ de feu, etc.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Donc lorsque un événement de ce type-là se produit, si les secours ne sont pas encore sur place, l'important c'est d'appeler le plus vite possible, et si les secours sont déjà sur place, c'est s'éloigner le plus vite possible de la zone concernée.
Alors justement, quand on parle de prévention incendie, la prévention incendie peut nécessiter, par exemple Jean-Paul Bailhac, la fermeture de certains massifs forestiers au public. Quelles sont aujourd'hui sur l'Aude les zones sensibles ?
Le massif de la Clape, le massif de Fontfroide, donc en périphérie de Narbonne, l'île de Sainte-Lucie et le massif Pinet de Crémade, donc au sud de Lézignan. Donc là, ce sont les quatre massifs qui se sont susceptibles de faire l'objet de fermetures administratives. Dans des situations de crise aggravée, d'autres massifs du département pourraient aussi être fermés au public, mais bon, pour le moment, c'est pas une perspective qui se présente à brève échéance.
Alors comment est-ce qu'on se tient informé justement de la fermeture de certains massifs forestiers ? C'est tenu à jour ? On a une carte qui est disponible ?
Voilà, tout à fait. C'est une carte qui est mise en ligne sur un site qui s'appelle risque-prévention-incendie.fr, Aude. Et qui met quotidiennement à disposition du public, les prévisions de risque sur les 9 zones du département, et d'autre part, les informations relatives à la fermeture des massifs.
Eh bien, écoutez,
pour le jour J, et puis pour le lendemain également.
Donc voilà, c'est important, on peut aller suivre l'actualité comme ça du risque incendie. Et puis surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Paul Bailhac, avoir un comportement adapté en fait à la situation. On n'oublie pas que la sécheresse est d'actualité et on n'oublie pas que cet été, il va falloir être très prudent et avoir le comportement qui va avec cette situation. C'est finalement l'essentiel.
Oui, tout à fait. Hein. Il faut être soi-même acteur de sa propre sécurité et de celle des autres.
Mais merci beaucoup Jean-Paul Bailhac. Je rappelle que vous êtes responsable feu de forêt au S10-11. Merci pour toutes ces informations et à bientôt.
Merci, au revoir.